Vous écoutez Radio France Internationale en direct de Paris, où il est 22h.
François Bernard.
Avec Sylvie Berruet pour vous présenter le journal en français facile. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Dans l'actualité de ce jeudi 15 octobre, le président Barack Obama qui annonce le maintien de troupes américaines en Afghanistan au-delà de 2016.
Le régime syrien élargit son offensive dans le centre du pays en attaquant les rebelles dans la province de Homs.
Et puis le chef du gouvernement de Catalogne, Artur Mas, a comparu aujourd'hui devant un tribunal pour s'expliquer sur l'organisation, l'an dernier, d'une consultation sur l'indépendance de la région.
Le journal, en français facile.
L'armée syrienne et des miliciens du Hezbollah libanais ont lancé à l'aube une offensive terrestre avec l'appui de l'aviation russe.
Les forces pro-Assad tentent de reprendre le contrôle des principaux centres urbains de l'ouest du pays, fief de la minorité alaouite dont est issue la famille Assad.
Alors que les discussions se poursuivent avec les Américains, les Russes annoncent l'ouverture d'une ligne téléphonique directe avec les Israéliens.
Il s'agit d'éviter tout incident entre leurs aviations dans l'espace aérien syrien, nous dit Muriel Pomponne à Moscou pour RFI.
Les pilotes russes et israéliens ont commencé hier leur entraînement pour assurer la sécurité des vols au-dessus de la Syrie. L'annonce a été faite par le ministère russe de la Défense qui précise « Le partage mutuel d'informations sur les opérations de nos forces aériennes a été établi par le biais d'une ligne directe entre le quartier général russe de la base aérienne de Khmeimim en Syrie et le commandement de l'aviation militaire en Israël ». Le 9 octobre dernier, d'après la presse israélienne, le chef d'état-major adjoint, le général Nikolaï Bogdanovski, à la tête d'une délégation militaire russe, s'est rendu à Tel Aviv pour rencontrer son homologue israélien. Et en septembre, lors de la visite du premier ministre israélien à Moscou, les deux pays s'étaient mis d'accord sur la création d'une commission militaire bilatérale qui coordonnerait les actions militaires dans les airs et sur mer. Selon des sources concordantes, Israël a effectué plus d'une dizaine d'attaques aériennes en Syrie depuis 2013. La plupart de ces frappes ont visé des transports d'armes destinés au Hezbollah libanais. Moscou et Tel Aviv n'ont pas les mêmes objectifs en Syrie. Les premiers cherchent à sauver le régime de Bachar al-Assad, les seconds à éliminer la menace du Hezbollah sur Israël. Mais aucun des deux pays ne veut de confrontation. Muriel Pomponne, Moscou, RFI.
Le gouvernement américain compte marquer une pause dans le retrait de ses soldats d'Afghanistan. C'est ce que doit annoncer dans les prochaines heures le président Barack Obama.
Quelques 10 000 soldats sont actuellement déployés sur le sol afghan. Initialement, un retrait quasiment total des troupes était prévu d'ici la fin janvier 2017.
Eh bien finalement, 14 ans après le début de l'intervention militaire, la présence militaire américaine est maintenue en Afghanistan, au moins encore pendant 2 ans.
En 2016, 9 800 soldats seront maintenus sur place. En 2017, les effectifs seront réduits de moitié avec le maintien de 5 500 soldats dans les bases de Bagram, Jalalabad et Kandahar.
Les précisions de Yelena Tomic.
Force est de constater que les quelques 60 milliards de dollars dépensés par Washington ces 14 dernières années pour former et équiper l'armée afghane n'ont pas donné les résultats escomptés. Depuis le départ de la majorité des troupes occidentales d'Afghanistan, à l'exception des forces américaines, la paix est loin d'être gagnée. Les talibans ont engagé ces derniers mois plusieurs offensives, mettant à rude épreuve l'armée afghane, comme à Kunduz, dans le nord du pays, où les insurgés, dans une offensive spectaculaire, ont réussi à prendre le contrôle d'une ville de 300 000 habitants. La ville de Kunduz a finalement été reprise aux talibans grâce au soutien de l'aviation américaine. Et Washington, qui dispose de quelques 10 000 soldats qui ont pour mission d'entraîner les forces afghanes et de se consacrer aux opérations antiterroristes, a dû se rendre à l'évidence. Les militaires afghans sont toujours incapables aujourd'hui d'assurer la sécurité du pays. Le président Obama a annoncé un ralentissement du retrait qui devait pourtant être total à la fin de son mandat fin janvier 2017.
Yelena Tomic. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se sont réunis à Bruxelles pour tenter de définir leur politique commune face à l'afflux de réfugiés sur le continent.
Ils ont décidé de mettre l'accent sur le renforcement des frontières, l'accélération des retours de migrants irréguliers et la coopération avec la Turquie.
Vous écoutez Radio France Internationale. Il est maintenant 22h05 à Paris.
Le journal en français facile.
En Espagne, le chef du gouvernement régional de Catalogne, l'indépendantiste Artur Mas, comparaissait ce matin pour avoir organisé le référendum du 9 novembre 2014.
Ce référendum n'avait pas de valeur légale aux yeux du gouvernement central espagnol. Il avait même été interdit par la Cour constitutionnelle. Artur Mas s'explique.
Em declaro...
Je me déclare premier responsable de cette initiative politique et je l'assume pleinement. C'est moi qui en ai eu l'ambition et j'ai organisé le référendum du 9 novembre de l'année dernière. J'ai expliqué au tribunal qu'il devra juger si le fait de m'être comporté comme un démocrate équivaut à agir comme un délinquant. C'est à la justice d'en décider. Selon moi, beaucoup de mes concitoyens et concitoyennes partagent ce sentiment. Selon moi, avoir agi en démocrate, c'est avoir écouté les gens, c'est également promouvoir le droit de participer à des actes de libre expression et savoir écouter les institutions locales de notre pays, la Catalogne. Enfin, c'est également avoir mis des urnes à disposition des gens à chaque fois qu'il était nécessaire qu'ils expriment leurs opinions sur les sujets qui comptent.
Artur Mas au micro de Romain Lemaresquier. Le Brésil accumule les mauvaises nouvelles à moins d'un an des Jeux Olympiques de Rio. L'agence de notation financière Fitch a abaissé la note du pays.
L'agence Fitch note le poids croissant de la dette et l'aggravation de la conjoncture politique dans le pays où le gouvernement est accusé de corruption.
Et puis l'ex-premier ministre de la Moldavie a été arrêté au Parlement dans le cadre d'une affaire de fraude qui porte sur un total d'1 milliard d'euros. Le pouvoir est entre nos mains. Il s'agit du thème de la 6e journée internationale du lavage des mains au savon.
Plus de 200 millions de personnes et 1 million d'écoles dans plus de 100 pays dans le monde sont concernées par ce problème de santé publique.
La journée a été créée en 2008 afin d'encourager cette pratique et surtout d'informer sur ses bénéfices sanitaires, nous explique Michel Diaz.
Se mouiller les mains et les frotter avec du savon, avant de préparer et servir de la nourriture, avant de manger, avant d'allaiter ou encore de changer et laver un nourrisson après avoir été aux toilettes, ces conseils font partie de ceux donnés aux mamans sur le continent africain, mais qui peuvent s'appliquer à chaque citoyen du monde. En effet, les maladies diarrhéiques représentent la deuxième cause de mortalité chez les enfants âgés de moins de 5 ans. 600 000 individus en meurent chaque année sur la planète. Malheureusement, la contamination par des eaux insalubre est un problème d'assainissement et d'hygiène récurrent et le lavage des mains avec du savon constitue une des barrières les moins onéreuses contre l'infection. Il s'agit d'un geste simple, rappelle l'UNICEF, et très efficace si l'on veut sauver des vies. Des messages à destination des parents mais aussi des enseignants afin d'atteindre un plus grand nombre d'enfants dans les écoles. Un geste que tout le monde sait incontournable. On a pu le constater lors de récentes épidémies dans les pays d'Afrique de l'Ouest, mais pas seulement.
Michel Diaz. Du sport, de la boxe, le français Tony Yoka est devenu champion du monde amateur des super lourds, les plus de 91 kilos, en battant au point ce soir à Doha, c'est au Qatar, le Kazakh Ivan Dishko.
Yoka, premier champion du monde français dans cette catégorie, décroche par la même occasion sa qualification pour les Jeux Olympiques de Rio 2016.
Du football, après les incidents durant le match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais, Marseille a été sanctionné de 2 matchs à huis clos.
Le comité exécutif de la Confédération européenne de football, UEFA, a apporté son soutien à la candidature de son président, Michel Platini, à la direction de la FIFA.
Un soutien confirmé malgré la suspension infligée aux Français par la commission d'éthique de la Fédération internationale. Une suspension qui pourrait l'empêcher de se porter candidat. Voilà, c'est la fin de ce journal.
Les journaux. En français facile.
Et on a reçu beaucoup de courriers ces derniers jours pour nous dire qu'il y avait des problèmes pour écouter le journal en français facile sur le site internet.
Oui, mais c'est fini. Les services techniques ont trouvé une solution et vous pouvez de nouveau nous écouter sur le site en même temps que vous lisez le script du journal.
Et alors, bien sûr, l'actualité est bien plus facile à comprendre dans ce cas-là. Allez, à demain pour une autre édition.
Bonsoir à tous.